La première église paroissiale de Lambesc était celle que nous connaissons aujourd'hui comme la chapelle Saint-Michel ou la chapelle du cimetière. Au XIIIe siècle, il est décidé de construire une nouvelle église, plus grande, plus au centre du village, sur l'emplacement de l'ancien château féodal. Cette église sera placée sous le vocable de Notre-Dame de la Rose. Elle restera église paroissiale pendant près de 400 ans, jusqu'à ce qu'un petit événement vienne condamner l'avenir de cette église. En 1664, la ville de Lambesc est choisie comme siège des assemblées des communautés de Provence. Alors ces assemblées, à ne pas confondre avec les assemblées des États de Provence, étaient une institution ancienne remontant au Moyen-Âge, placée sous la présidence des archevêques d'Aix et de l'intendant de Provence. Elles étaient formées de députés de chaque communauté du comté de Provence, à l'exception de ce qu'on appelait les terres adjacentes, c'est-à-dire Marseille, Arles ou Salon, qui, elles, étaient directement administrées par l'intendant de Provence. Ces assemblées se réunissaient une fois par an pour voter un don aux finances du roi et diverses dépenses considérées comme d'utilité publique dans chacune de ces communautés, comme la réfection des routes, des ponts, des travaux importants dans les villes, sur les gros monuments, etc. Alors le conseil de la communauté de Lambesc trouvait que l'église était devenue trop petite pour accueillir les fidèles qui venaient à Lambesc à l'occasion de ces réunions, et le premier consul décide, le 8 décembre 1699, de faire construire une église plus grande et plus belle que celle de Notre-Dame de la Rose, et cette nouvelle église va devenir l'église Notre-Dame de l'Assomption, qui est l'église qu'on connaît encore aujourd'hui. Alors les travaux vont démarrer très vite, puisque le conseil décide en décembre 1699 de faire construire la nouvelle église, et dès le mois de janvier, des plans vont être commandés à Laurent Vallon. Alors Laurent Vallon, qui est l'architecte officiel de la ville d'Aix et qui va devenir l'architecte de la province quelques années plus tard. Le 13 avril, l'adjudication est prononcée au profit d'un groupement d'entrepreneurs, donc groupement d'entrepreneurs qui va être dirigé par le sculpteur Honoré Fossé. Alors Honoré Fossé, qui n'est que sculpteur, va prendre le titre d'architecte, donc ça laisse présager quelques soucis dans la direction du chantier de construction d'une église, puisqu'il n'est pas architecte, ne l'a jamais été et ne le sera jamais. Donc les travaux débutent le 23 avril, la première pierre va être posée par le curé du village, donc qui est le curé Blin. Alors dans un premier temps, on va commencer par détruire une partie de l'ancienne église pour récupérer les matériaux qui vont servir à la construction de la nouvelle. Ensuite, on va raser les quelques restes du château, à l'exception d'une des tours qui servira de clocher à la nouvelle église, et une partie du rocher sur lequel il était bâti pour pouvoir agrandir la nef et les bas-côtés de l'église, donc pour faire une église plus grande. Donc dans la première phase des travaux, on va construire le chœur et les chapelles absidiales, le transept et la croisée avec la coupole, la première travée de la nef avec les bas-côtés. Alors le plan de l'église est classique, c'est une église en croix latine avec une nef centrale de trois travées, deux nefs latérales, un transept, un chœur d'une travée avec des chapelles latérales et une abside en cul de four. La nef est couverte de voûtes d'arêtes, la croisée d'une coupole monumentale et les deux chapelles absidiales avec des petites coupoles surbaissées. Pendant cette première phase de travaux, qui est tout de même une phase importante, Laurent Vallon, l'architecte qui a dessiné les plans, va venir chaque année sur le chantier. Tout ça va durer 3 ans. En 1704, les travaux sont interrompus, il n'y a plus d'argent, mais malgré tout, les consuls de la ville vont essayer de se débrouiller pour reprendre les travaux, puisque ce qui reste de l'ancienne église Notre-Dame de la Rose menace de s'écrouler et d'endommager la nouvelle construction. La ville va donc emprunter de l'argent au roi, donc ils vont emprunter 4500 livres pour pouvoir payer les entrepreneurs et les ouvriers et faire redémarrer le chantier. Alors il y a des problèmes d'argent, certes, mais il y a également d'autres problèmes. Le chantier est donc dirigé par un sculpteur, Honoré Fossé. Honoré Fossé, non content d'être seulement sculpteur et non pas architecte, avait décidé de modifier les plans de Laurent Vallon. Il va créer des nouvelles ouvertures, il va changer par exemple les pilastres doriques solides qui avaient été prévus par Vallon par des petits pilastres corinthiens beaucoup plus élancés, et toutes ces modifications vont altérer la solidité de l'ensemble de l'édifice. Tant et si bien que 3 ans plus tard, la ville se retrouve dans l'obligation de faire appel à un autre architecte pour faire une expertise. Ils appellent Jean Perru, qui est sculpteur et architecte avignonnais, qui va réaliser une expertise de la coupole qui vraisemblablement menace ruine. Jean Perru vient donc à Lambesc, inspecte l'église et conclut que la coupole a été construite contre les règles de l'art et il en ordonne la reconstruction. La coupole est donc détruite et elle va être remplacée dans l'année. Les travaux de réfection d'une église inachevée vont continuer encore quelques années avant que le chantier soit de nouveau interrompu par le manque d'argent. Alors les 3 nefs ne sont pas terminées, l'église n'a pas de façade, donc on va monter une muraille censée être provisoire pour fermer le chantier en attendant que les fonds communaux permettent la reprise des travaux. Cette sorte de façade provisoire va rester 10 ans. Pendant une dizaine d'années, on ne va plus rien toucher, on ne va plus faire de travaux à l'église, jusqu'à ce que les consuls de la ville fassent appel à Thomas Verrier, qui est un architecte originaire de Trèves, et Louis Lieutot, d'Aix, pour procéder à une nouvelle expertise. Ces deux architectes se rendent donc à Lambesc. Ils vont y rester à peu près une dizaine de jours, le temps de pouvoir inspecter vraiment l'église dans tous ses recoins, et ils vont constater des fissures, des infiltrations d'eau, et ils vont faire donc un rapport sur tous les nouveaux travaux qu'il faudrait engager pour rattraper les erreurs des architectes et chefs de chantier qui les ont précédés. Alors pour eux, la construction n'est pas contraire aux règles de l'art, comme l'avait dit Perru, mais surtout non conforme au plan d'origine dressé par Vallon. Alors ils vont préconiser de nombreuses modifications, surtout en ce qui concerne la toiture. Ils soulèvent plusieurs points assez curieux. Par exemple, certains piliers sont plus hauts que les autres, ce qui, comme on peut s'en douter, n'arrange pas la stabilité du bâtiment. Le blanchiment des voûtes sont déjà ruinés. Les épaulements des petites coupoles latérales sont garnis en terre et non en muraille, disent-ils. La génoise de la toiture est également remplie de terre au lieu de chaux et de sable, etc., etc. L'état des paroisses d'Aix, qui est un petit document qui recense donc toutes les paroisses du diocèse d'Aix en 1730, cet état des paroisses, près de 15 ans après l'expertise de Verrier et de Lieutot, précise que l'église n'est pas encore finie, mais que ce qu'il y a de fait est dans un état décent. Alors en 1731, justement, le conseil de la ville décide de reprendre les travaux suite à une nouvelle expertise donc d'un autre architecte, Georges Vallon, qui est le fils de Laurent Vallon, et son successeur au poste d'architecte de la province et de la ville d'Aix. Alors Georges Vallon, lui, pense que la seule solution pour empêcher l'église de s'écrouler est de la terminer. Malheureusement, il n'y a toujours pas d'argent dans les caisses de la ville et rien ne va bouger jusqu'à l'année suivante où les consuls demandent des avis de plusieurs autres architectes pour savoir que faire de cette église inachevée. Alors, ils font appel à un architecte marseillais qui s'appelle Flotte. Alors, lui, il propose de changer complètement le dessin original pour changer le plan de l'église, donc de passer de la croix latine à un plan centré. Le conseil de la ville n'est pas tout à fait convaincu. La majorité décide d'attendre que Jean-Baptiste Franck, l'architecte avignonnais, qui avait également été sollicité, puis rende ses plans. Franck, pour mémoire, c'est le concepteur de nombreux édifices de la région, comme l'actuel musée Calvé, le château de Manne, le palais épiscopal de Viviers, qui est aujourd'hui la mairie de la ville, ou le château de Sauvent. Donc c'est un grand architecte de la région. Lui, il va proposer de prolonger la nef de 2 travées, de renforcer la structure par des piliers et des poutres transversales. Mais par contre, il ne veut pas se déplacer jusqu'à Lambesc. Donc on va faire appel à François Lieutot, architecte d'Aix, pour prendre la direction du chantier et faire appliquer les préconisations de Franck. La réception des travaux est enfin signée en 1743 par François Lieutot et Georges Vallon, plus de 40 ans après le début de la construction. Pourtant, l'église n'est pas terminée. Il reste encore de nombreux aménagements à faire, comme tout ce qui concerne l'intérieur, donc le blanchiment des murs, la tribune, le tambour d'entrée, il n'y a pas de fonds baptismaux, la chaire, les boiseries intérieures, les grandes orgues ne sont pas encore installées. En 1757, on va condamner les 2 portes latérales de la façade, condamnation qui était censée être provisoire, et pourtant elles ne sont toujours pas rouvertes, près de 300 ans plus tard. L'église de Lambesc, finalement, ne sera définitivement achevée qu'au milieu du XIXe siècle, avec la décoration de la façade par le sculpteur Pascal Lyotard en 1863. Donc en conclusion, entre l'établissement des plans par Laurent Vallon et la fin des travaux, il se sera écoulé plus de 160 ans. Alors l'église est agrémentée d'un clocher. Ce clocher faisait partie de l'ancien château, c'était une des tours fortifiées du château féodal. La partie supérieure de cette tour avait été agrémentée d'une flèche au XVIe siècle, flèche qui n'existe plus aujourd'hui puisqu'elle a été endommagée par le tremblement de terre, puis dynamitée pour faire tomber les dernières pierres. Et c'est également après le tremblement de terre qu'on va recouvrir la coupole de ciment, puisque cette coupole, jusqu'à ce moment-là, était en tuiles creuses. À l'intérieur de cette église, il y a de nombreuses œuvres d'art, alors parmi lesquelles on peut trouver une fresque représentant le baptême du Christ par les peintres Reboul et Castel, donc dans la chapelle des fonts baptismaux. Joseph Castel et Jean-Baptiste Reboul sont deux peintres de la première moitié du XVIIIe siècle qui étaient actifs à Nice et à Avignon. Il y a également dans l'église trois tableaux de Michel-François d'André Bardon, qui était peintre, graveur, historien de l'art, né à Aix-en-Provence. C'est notamment lui qui va fonder l'Académie de peinture de Marseille et il va également devenir professeur à l'Académie royale de Paris. Donc d'André Bardon va peindre trois tableaux pour l'église de Lambesc. Un Saint Crépin et Saint Crépinien qui se trouve dans la chapelle Saint-Michel qui a été peint pour la confrérie des cordonniers de Lambesc. Un Saint Eldrad ressuscitant un mort que l'on trouve aujourd'hui dans la chapelle Saint Eldrad. Et une vision de Saint Jacques qui se trouve dans la chapelle du Purgatoire. Il y a également dans cette église un tableau de Nicolas Mignard, le célèbre peintre, qui va réaliser pour l'église des Trinitaires au départ une vision de Saint Jean de Mata. Pour mémoire, Saint Jean de Mata, c'est le fondateur de l'ordre de la Très Sainte Trinité et de la rédemption des captifs. Ce saint naît au milieu du XIIe siècle et lors de la célébration de sa première messe, il a une vision d'un homme habillé en blanc avec une croix rouge et bleue sur la poitrine, posant la main sur deux prisonniers. Il va raconter sa vision au pape qui a eu la même vision. Alors tous les deux, ils interprètent ça comme un appel de Dieu à fonder un ordre ayant pour mission de racheter les captifs des Sarrasins. C'est ainsi que va naître l'ordre des Trinitaires. Alors Nicolas Mignard, le peintre qui a fait ce tableau pour l'église des Trinitaires de Lambesc, est un peintre avignonnais qui va faire un voyage de Rome. Il grandit dans une famille d'artistes. Il va être nommé Mignard d'Avignon pour le distinguer de son frère que l'on appelait Mignard le Romain et va notamment devenir professeur à l'Académie royale de peinture et de sculpture après avoir travaillé pour Louis XIV à la décoration de plusieurs appartements du Palais des Tuileries. Alors dans l'église de Lambesc, on trouve également un tableau représentant la scène derrière le maître-autel qui a été peint par Charles-Joseph Natoire, qui était le directeur de l'Académie de France à Rome dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Un tableau de Jean d'Arrée qui représente la mort de Saint-Joseph, qui avait été peint pour l'ancienne église et qui aujourd'hui est placé sur l'autel de la chapelle Saint-Joseph. Jean d'Arrée, qui était peintre du roi, donc peintre du roi Louis XIV. Il y a également dans cette église des sculptures. Alors on a quatre sculptures sur les piliers du transept qui représentent les quatre évangélistes qui ont été sculptés par Honoré Fossé, celui qui avait été chargé de faire construire l'église et qui, comme on peut le voir en regardant ces sculptures, heureusement avait bien plus de talent comme sculpteur que comme architecte. Il y a également une Vierge à l'enfant en albâtre qui provient de l'ancienne église des Trinitaires. Alors cette sculpture, elle a été placée dans l'église en 1803 et elle est attribuée par des spécialistes de sculpture italienne au génois Leonardo Mirano, qui est connu pour ses nombreuses vierges à l'enfant. Et on peut en voir par exemple une qui est quasiment identique à celle de Lambesc dans l'église Saint-Trophime d'Arles. Alors dans le dictionnaire de la Provence et du Comtat venaissin, Claude Achard parle de l'église de Lambesc comme d'une architecture de bon goût et Villeneuve dans ses statistiques d'une noble architecture. On peut rapprocher l'église de Lambesc de plusieurs édifices religieux de la région aixoise, notamment pour son ordonnancement intérieur, comme par exemple l'église du Saint-Esprit qui est située dans la rue Esparia à Aix, qui lui ressemble fortement, église que l'on doit à Laurent Vallon, le premier concepteur des plans de l'église de Lambesc.
C'était Sandrine Chavre, historienne de l'art. Pour découvrir son actualité, abonnez-vous à sa page Facebook.
Alors, les travaux vont démarrer très vite, puisque le conseil décide en décembre 1699 de faire construire la nouvelle église. Et dès le mois de janvier, des plans vont être commandés à Laurent Vallon. Alors, Laurent Vallon, qui est l'architecte officiel de la ville d'Aix et qui va devenir l'architecte de la province quelques années plus tard. Le 13 avril, l'adjudication est prononcée au profit d'un groupement d'entrepreneurs, donc groupement d'entrepreneurs qui va être dirigé par le sculpteur Honoré Fossé. Alors Honoré Fossé, qui n'est que sculpteur, va prendre le titre d'architecte, donc ça laisse présager quelques soucis dans la direction du chantier de construction d'une église, puisqu'il n'est pas architecte, ne l'a jamais été et ne le sera jamais. Donc les travaux débutent le 23 avril, la première pierre va être posée par le curé du village, donc qui est le curé Blin. Alors dans un premier temps, on va commencer par détruire une partie de l'ancienne église pour récupérer les matériaux qui vont servir à la construction de la nouvelle. Ensuite, on va raser les quelques restes du château, à l'exception d'une des tours qui servira de clocher à la nouvelle église, et une partie du rocher sur lequel il était bâti pour pouvoir agrandir la nef et les bas-côtés de l'église, donc pour faire une église plus grande. Donc dans la première phase des travaux, on va construire le chœur et les chapelles absidiales, le transept et la croisée avec la coupole, la première travée de la nef avec les bas-côtés. Alors le plan de l'église est classique, c'est une église en croix latine avec une nef centrale de trois travées, deux nefs latérales, un transept, un chœur d'une travée avec des chapelles latérales et une abside en cul de four. La nef est couverte de voûtes d'arêtes, la croisée d'une coupole monumentale et les deux chapelles absidiales avec des petites coupoles surbaissées. Pendant cette première phase de travaux, qui est tout de même une phase importante, Laurent Vallon, l'architecte qui a dessiné les plans, va venir chaque année sur le chantier. Tout ça va durer 3 ans. En 1704, les travaux sont interrompus, il n'y a plus d'argent, mais malgré tout, les consuls de la ville vont essayer de se débrouiller pour reprendre les travaux, puisque ce qui reste de l'ancienne église Notre-Dame de la Rose menace de s'écrouler et d'endommager la nouvelle construction. La ville va donc emprunter de l'argent au roi, donc ils vont emprunter 4500 livres pour pouvoir payer les entrepreneurs et les ouvriers et faire redémarrer le chantier. Alors il y a des problèmes d'argent, certes, mais il y a également d'autres problèmes. Le chantier est donc dirigé par un sculpteur, Honoré Fossé. Honoré Fossé, non content d'être seulement sculpteur et non pas architecte, avait décidé de modifier les plans de Laurent Vallon. Il va créer des nouvelles ouvertures, il va changer par exemple les pilastres doriques solides qui avaient été prévus par Vallon par des petits pilastres corinthiens beaucoup plus élancés, et toutes ces modifications vont altérer la solidité de l'ensemble de l'édifice. Tant et si bien que 3 ans plus tard, la ville se retrouve dans l'obligation de faire appel à un autre architecte pour faire une expertise. Ils appellent Jean Perru, qui est sculpteur et architecte avignonnais, qui va réaliser une expertise de la coupole qui vraisemblablement menace ruine. Jean Perru vient donc à Lambesc, inspecte l'église et conclut que la coupole a été construite contre les règles de l'art et il en ordonne la reconstruction. La coupole est donc détruite et elle va être remplacée dans l'année. Les travaux de réfection d'une église inachevée vont continuer encore quelques années, avant que le chantier soit de nouveau interrompu par le manque d'argent. Alors les trois nefs ne sont pas terminées, l'église n'a pas de façade, donc on va monter une muraille censée être provisoire pour fermer le chantier en attendant que les fonds communaux permettent la reprise des travaux. Cette sorte de façade provisoire va rester 10 ans. Pendant une dizaine d'années, on ne va plus rien toucher, on ne va plus faire de travaux à l'église, jusqu'à ce que les consuls de la ville fasse appel à Thomas Verrier, qui est un architecte originaire de Trèves, et Louis Lieutot, d'Aix, pour procéder à une nouvelle expertise. Ces deux architectes se rendent donc à Lambesc. Ils vont y rester à peu près une dizaine de jours, le temps de pouvoir inspecter vraiment l'église dans tous ses recoins, et ils vont constater des fissures, des infiltrations d'eau, et ils vont faire donc un rapport sur tous les nouveaux travaux qu'il faudrait engager pour rattraper les erreurs des architectes et chefs de chantier qui les ont précédés. Alors pour eux, la construction n'est pas contraire aux règles de l'art comme l'avait dit Perru, mais surtout non conforme au plan d'origine dressé par Vallon. Alors ils vont préconiser de nombreuses modifications, surtout en ce qui concerne la toiture. Ils soulèvent plusieurs points assez curieux. Par exemple, certains piliers sont plus hauts que les autres, ce qui, comme on peut s'en douter, n'arrange pas la stabilité du bâtiment. Le blanchiment des voûtes sont déjà ruinés. Les épaulements des petites coupoles latérales sont garnis en terre et non en muraille, disent-ils. La génoise de la toiture est également remplie de terre au lieu de chaux et de sable, etc. etc. L'état des paroisses d'Aix, qui est un petit document qui recense donc toutes les paroisses du diocèse d'Aix en 1730, cet état des paroisses, près de 15 ans après l'expertise de Verrier et de Lieutaud, précise que l'église n'est pas encore finie, mais que ce qu'il y a de fait est dans un état décent. Alors en 1731, justement, le conseil de la ville décide de reprendre les travaux suite à une nouvelle expertise donc d'un autre architecte, Georges Vallon, qui est le fils de Laurent Vallon et son successeur au poste d'architecte de la province et de la ville d'Aix. Alors Georges Vallon, lui, pense que la seule solution pour empêcher l'église de s'écrouler est de la terminer. Malheureusement, il n'y a toujours pas d'argent dans les caisses de la ville et rien ne va bouger jusqu'à l'année suivante où les consuls demandent des avis de plusieurs autres architectes pour savoir que faire de cette église inachevée. Alors ils font appel à un architecte marseillais qui s'appelle Flotte. Alors lui, il propose de changer complètement le dessin original pour changer le plan de l'église, donc de passer de la croix latine à un plan centré. Le conseil de la ville n'est pas tout à fait convaincu. La majorité décide d'attendre que Jean-Baptiste Franck, l'architecte avignonnais, qui avait également été sollicité, puis rende ses plans. Franck, pour mémoire, c'est le concepteur de nombreux édifices de la région, comme l'actuel musée Calvé, le château de Manne, le palais épiscopal de Viviers, qui est aujourd'hui la mairie de la ville, ou le château de Sauvent. Donc c'est un grand architecte de la région. Lui, il va proposer de prolonger la nef de deux travées, de renforcer la structure par des piliers et des poutres transversales, mais par contre, il ne veut pas se déplacer jusqu'à Lambesque. Donc on va faire appel à François Lieutaud, architecte d'Aix, pour prendre la direction du chantier et faire appliquer les préconisations de Franck. La réception des travaux est enfin signée en 1743 par François Lieutaud et Georges Vallon, plus de 40 ans après le début de la construction. Pourtant, l'église n'est pas terminée. Il reste encore de nombreux aménagements à faire, comme tout ce qui concerne l'intérieur, donc le blanchiment des murs, la tribune, le tambour d'entrée, il n'y a pas de fonts baptismaux, la chaire, les boiseries intérieures, les grandes orgues ne sont pas encore installées. En 1757, on va condamner les deux portes latérales de la façade, condamnation qui était censée être provisoire, et pourtant elles ne sont toujours pas rouvertes, près de 300 ans plus tard. L'église de Lambesque, finalement, ne sera définitivement achevée qu'au milieu du XIXe siècle, avec la décoration de la façade par le sculpteur Pascal Lyotard en 1863. Donc en conclusion, entre l'établissement des plans par Laurent Vallon et la fin des travaux, il se sera écoulé plus de 160 ans. Alors l'église est agrémentée d'un clocher. Ce clocher faisait partie de l'ancien château, c'était une des tours fortifiées du château féodal. La partie supérieure de cette tour avait été agrémentée d'une flèche au XVIe siècle, flèche qui n'existe plus aujourd'hui puisqu'elle a été endommagée par le tremblement de terre, puis dynamitée pour faire tomber les dernières pierres. Et c'est également après le tremblement de terre qu'on va recouvrir la coupole de ciment, puisque cette coupole, jusqu'à ce moment-là, était en tuiles creuses. À l'intérieur de cette église, il y a de nombreuses œuvres d'art, alors parmi lesquelles on peut trouver une fresque représentant le baptême du Christ par les peintres Reboul et Castel, donc dans la chapelle des fonts baptismaux. Joseph Castel et Jean-Baptiste Reboul sont deux peintres de la première moitié du XVIIIe siècle qui étaient actifs à Nice et à Avignon. Il y a également dans l'église trois tableaux de Michel-François d'André Bardon, qui était peintre, graveur, historien de l'art, né à Aix-en-Provence. C'est notamment lui qui va fonder l'Académie de peinture de Marseille. Et il va également devenir professeur à l'Académie royale de Paris. Donc, d'André Bardon va peindre trois tableaux pour l'église de Lambesque. Un Saint Crépin et Saint Crépinien qui se trouve dans la chapelle Saint-Michel qui a été peint pour la confrérie des cordonniers de Lambesque. Un Saint Eldrade ressuscitant un mort que l'on trouve aujourd'hui dans la chapelle Saint Eldrade. et une vision de Saint-Jacques qui se trouve dans la chapelle du Purgatoire. Il y a également dans cette église un tableau de Nicolas Mignard, le célèbre peintre, qui va réaliser pour l'église des Trinitaires au départ une vision de Saint-Jean de Mata. Pour mémoire, Saint-Jean de Mata, c'est le fondateur de l'ordre de la Très-Sainte Trinité et de la rédemption des captifs. Ce saint naît au milieu du XIIe siècle et lors de la célébration de sa première messe, il a une vision d'un homme habillé en blanc avec une croix rouge et bleue sur la poitrine, posant la main sur deux prisonniers. Il va raconter sa vision au pape qui a eu la même vision. Alors tous les deux, ils interprètent ça comme un appel de Dieu à fonder un ordre ayant pour mission de racheter les captifs des Sarrasins. C'est ainsi que va naître l'ordre des Trinitaires. Alors Nicolas Mignard, le peintre qui a fait ce tableau pour l'église des Trinitaires de Lambesc, est un peintre avignonnais qui va faire un voyage de Rome. Il grandit dans une famille d'artistes. Il va être nommé Mignard d'Avignon pour le distinguer de son frère que l'on appelait Mignard le Romain. Et va notamment devenir professeur à l'Académie royale de peinture et de sculpture après avoir travaillé pour Louis XIV à la décoration de plusieurs appartements du Palais des Tuileries. Alors dans l'église de Lambesc, on trouve également un tableau représentant la scène derrière le maître-autel qui a été peint par Charles-Joseph Natoire, qui était le directeur de l'Académie de France à Rome dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Un tableau de Jean d'Arrée qui représente la mort de Saint-Joseph, qui avait été peint pour l'ancienne église et qui aujourd'hui est placé sur l'autel de la chapelle Saint-Joseph. Jean d'Arrée, qui était peintre du roi, donc peintre du roi Louis XIV. Il y a également dans cette église des sculptures. Alors on a quatre sculptures sur les piliers du transept qui représentent les quatre évangélistes qui ont été sculptés par Honoré Fossé, celui qui avait été chargé de faire construire l'église et qui, comme on peut le voir en regardant ces sculptures, heureusement, avait bien plus de talent comme sculpteur que comme architecte. Il y a également une Vierge à l'enfant en albâtre qui provient de l'ancienne église des Trinitaires. Alors cette sculpture, elle a été placée dans l'église en 1803 et elle est attribuée par des spécialistes de sculpture italienne au génois Leonardo Mirano, qui est connu pour ses nombreuses Vierges à l'enfant. Et on peut en voir par exemple une qui est quasiment identique à celle de Lambesc dans l'église Saint-Trophime d'Arles. Alors dans le dictionnaire de la Provence et du Comtat venaissin, Claude Achard parle de l'église de Lambesc comme d'une architecture de bon goût et Villeneuve dans ses statistiques d'une noble architecture. On peut rapprocher l'église de Lambesc de plusieurs édifices religieux de la région aixoise, notamment pour son ordonnancement intérieur, comme par exemple l'église du Saint-Esprit qui est située dans la rue Esparia à Aix, qui lui ressemble fortement, église que l'on doit à Laurent Vallon, le premier concepteur des plans de l'église de Lambesc.